Café Comics est une émission présentée par Guillaume Hébrard et Landry Passa. Bon petit-déj et bonne écoute à tous. Salut à tous et bienvenue sur ce Café Comics numéro 8. Bon alors, c'est un petit peu une émission un peu particulière parce qu'on était parti pour discuter avec Landry une soirée comme ça sans enregistrer, et puis on s'est dit qu'on abordait un sujet assez intéressant et que du coup on avait peur de vous en priver, donc on a décidé d'enregistrer. Salut Landry.
Et bonjour à tous les auditeurs, et oui, on est des écologistes du podcast, hein, donc on va pas gâcher, hein, la ressource est rare. Et oui, totalement.
Bon, tu vas bien Landry?
Bah écoute, je vais bien, hein, pour ce Café Comics improvisé, mais on espère que nos auditeurs vont adorer. En tout cas, nous on s'est bien marré à le préparer.
On s'est bien chauffé.
Ouais, c'est bien chauffé, ouais. C'est bien chauffé.
Donc de quoi on parlait? Ben écoutez, en fait, cette discussion elle est venue de... On parlait de Haim Saban et on parlait un petit peu des génériques et des dessins animés qui étaient un peu ratés, mais où les génériques étaient très bons.
Oui.
Et bah, du coup, on va un petit peu énumérer ça. Donc Haim Saban, comme je disais en fait à mon ami Landry, c'est un compositeur de fou, quoi. Il a commencé, bon, avant de créer les Power Rangers, bien sûr, il a commencé à faire des génériques de séries de dessins animés, pardon.
Oui.
Alors avant le Club Dorothée, hein, ça devait être Récré à deux à l'époque.
C'était Récré à deux, ouais. C'était Récré à deux, FR3, et il a beaucoup travaillé, je pense, pour ces trucs-là. Je pense aussi qu'il y a pas mal de séries sur la 5 version Berlusconi où il a dû produire des trucs.
Voilà. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme générique, ce cher monsieur? Entre autres, il a fait Bomber X, Ulysse 31, Les Maîtres de l'Univers, Les Mini-Pousses, Inspecteur Gadget, Les Dalton en Cavale, Pole Position, Punky Brewster, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jay Sally, Conquérant de la Lumière.
Ouais.
Blondine au pays de l'arc-en-ciel, je ne sais pas ce que c'est.
Je crois même qu'il était derrière les Bisounours, hein, le générique des Bisounours, aussi grande époque.
D'accord,
pas sûr. Enfin, c'est compliqué parce qu'il en a tellement fait.
Il y a Mask,
ouais, Masque.
Les Popples,
voilà.
The Real Ghostbusters. Alors, pour les plus vieux d'entre nous, hein, The Real Ghostbusters, voilà, si vous en rappelez. Hein, voilà.
Ah ben, c'est le dessin animé qui avait surfé sur le succès, on va dire, je crois, du premier Ghostbusters, ouais, entre le premier et le deux.
Ouais.
Et bon, comment dire, le vrai dessin animé, quoi.
Ouais,
ce soir,
vrai.
On est très mauvaise foi, on est très mauvaise foi de quarantenaire. Hein.
Denis la Malice, c'était un peu nul.
Oh, punaise.
Starcom, je sais plus ce que c'est ça.
Voilà. Il y a quand même pas mal de choses qui sont aujourd'hui dans les poubelles de la mémoire. Hein. Ça ne s'en rappelle plus. Hein.
Puis ça doit être des trucs genre un épisode ou quoi. T'as rappel de ça, il y avait Cops.
Ouais.
Cops, c'était bien ça.
Incroyable.
Dino Riders, Super Mario Bros.
Eh oui, désolé les gars. Aucun rapport avec le film qui a fait $1 milliard là, il n'y a pas longtemps.
Voilà. Samurai Pizza Cats. Non, mais on va en parler de la série Super Mario Bros aussi.
Oui, c'est la gênance absolue.
Alors, est-ce que tu veux parler d'une de ces séries, Landry?
Alors moi je vais, il y en a une qui me vient à l'esprit qui était vraiment chouette. Enfin, qui était chouette d'abord parce qu'elle a jamais été finie, c'est Jace et les Conquérants de la Lumière.
Ah ouais, ça n'a jamais été fini.
Alors c'était la formule, c'était la grande époque de la formule qui avait réussi à Hasbro, c'est-à-dire on fait un dessin animé pour essayer de te vendre des jouets.
Ouais.
Il y a eu des jouets, Jace et les Conquérants de la Lumière, qui ont bidé parce que ils étaient à la fois très beaux et tellement chers que personne ne pouvait se les payer.
C'est un
autre problème. Mais par contre, ça a donné lieu à une série en dessin animé avec cet énorme gap de qualité entre le générique, à la fois les musiques de Saiban, l'animation japonaise qui te disait « Yeah, ça va péter ce truc-là de tous les côtés !» Et puis après, la pauvre animation des studios français, franco-coréens, je crois, ou un truc comme
ça. Ouais, sans doute.
Enfin bref, c'était quelque chose... Alors, le service public français, je crois, s'en tirait mieux parce que, par exemple, tu prenais sur Antenne 2 les mystérieuses cités d'or.
Ouais.
L'animation et tout, le générique de Saiban, le générique était cool, l'animation était quand même ultra, ultra stylée.
Carrément.
Voilà. Carrément. Comme Ulysse 31, d'ailleurs.
Voilà. Ah, Ulysse 31, c'est... déjà, le générique, il est hallucinant.
Ouais. Ulysse ce parti pris de faire parler, de faire chanter un robot, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est... Bon. je parle de ce qu'il y a autour, moi. Mais, et puis, la série est énorme. Enfin, je veux dire, Ulysse 31, moi, j'ai toujours pas compris comment... Il y a, sachant que c'est français, c'est je crois qu'il y a
c'est franco-japonais.
Ouais, voilà.
C'est franco-japonais.
Le scénario est français, je pense.
Oui. Voilà. C'était Narcisse, tu sais, le truc où il y avait Loi là, qui produisait. C'est des boîtes françaises.
Il n'y a jamais eu. J'imagine que les droits d'adaptation doivent être en France. je me suis toujours posé la question, mais comment il y en a pas un qui a eu l'idée? Même via le biais d'une production américaine, d'adapter ça, quoi. J'ai jamais entendu de projet sur Ulysse 31. Jamais. Alors, j'ai entendu sur Albatros, sur machin, des trucs qui nous appartiennent pas forcément, tu vois. L'autre con, là, il a bien fait Nicky Larson, enfin, tu vois.
Ouais.
Mais Ulysse 31, jamais, quoi.
Tu as une autre série de dessins animés français qui n'a pas... Qui n'a pas eu droit à des adaptations ou autre chose, c'est comment ça s'appelle, les Mondes Engloutis.
Les Mondes Engloutis. Moi, j'aurais pas pu.
Ben non, mais moi j'adorais gamin. Alors, ouais. C'est là où on a un peu c'est là où notre différence d'âge elle joue.
Oui.
Les Mondes Engloutis, c'était stylé. Tu avais alors c'était pas très bien animé, mais c'était stylé.
C'est ça,
moi
j'en pouvais plus.
Moi, je me rappelle, t'avais des BD dans Pif Gadget qui adaptaient des épisodes.
Oui, c'est vrai.
Tu avais tout un ramdam sur le fait que c'était de la prod française. Et il y a quand même deux saisons avec une fin. Moi, je me suis toujours demandé comment, aujourd'hui encore, alors que c'est français, c'est un univers français, ça a marqué beaucoup de gens quand même.
Ouais.
Après, qu'on aime ou on n'aime pas, mais que c'était l'animation passée, mais ça a marqué beaucoup de gens. Et tu te dis, mais ils n'ont jamais tenté de produire des suites ou des trucs comme ça, ou réadapter.
Une adaptation live, ça aurait été très compliqué.
Enfin, une adaptation live compliquée, mais par contre, refaire un dessin animé, par exemple, avec plus les moyens d'aujourd'hui. Moi, je serais même pas contre, tu sais, de la très bonne animation 3D qualité. Ouais. Ça pourrait le faire. Parce que là aussi, alors c'était pas Saiban, mais t'as un générique qui est culte. Hein.
Ouais. Qui est insupportable, mais qui est culte.
Ah ben, il est culte. Hein. Bon, mais
c'est le générique de fin qui est insupportable.
Oui, non, mais enfin,
tu as les deux méchants là qui chantent là.
Alors c'est pas un générique de fin, c'était au milieu de l'épisode.
Hein. Ah
t'avais
t'avais
les pirates qui arrivaient, qui faisaient on est de socre, pirates, on va tout niquer, c'est comme ça. Voilà pourquoi. Bon, c'était bien.
Pour remercier nos chers auditeurs, je la mettrai à la fin.
Voilà.
Ils seront bien contents de l'écouter.
Moi je suis un vrai fan de ce truc-là, mais c'est vrai qu'effectivement c'était pauvre et tout. Mais c'est des dessins animés qui, malgré tout, comme il y avait que trois chaînes de télé, t'avais pas le choix, de toute façon, hein, globalement. Après, il y a Berlusconi qui est arrivé avec le catalogue du tout ce que le Japon produit, bref. Ouais. Que Dorothée achetait pas, hop.
C'est ça.
C'était ça sur la 5. Et là, Saiban, pour revenir, il a été très très fort. Il a habitué le public américain au Sentai japonais. Après, j'ai une théorie, mais j'ai peur pour beaucoup d'auditeurs, les plus jeunes, ceux qui ont été bercés par les Power Rangers dans leur jeunesse. Ouais. Moi, je trouve que les Power Rangers, c'est quand même un peu raciste à la base. Parce que tu prends tu prends de très très bonnes scènes de combat, de Sentai, avec les plus grands cascadeurs, on va dire, que le Japon a produit. Hein. Des fous, des mecs, ils se pendent à un fil, ils tombent de 40 mètres, hop, hop, hop. Bon. Et puis, tu prends des acteurs débiles. Et tu cuts ça en disant mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont leur costume, enfin qu'ils sont censés intégrer leur costume, tu vois plus qu'en fait c'est une série japonaise, tu le vois pas. Mais je trouve qu'il y a un petit côté les jeunes aimeront pas, alors qu'en France on a eu des Sentai et des vrais Bioman, nom, mais c'était des acteurs c'était les acteurs japonais, où tu prends Sankukai, c'était les acteurs japonais. Enfin, il serait jamais venu à l'idée d'une prod française de dire bon, on garde les scènes d'action, on garde les trucs, on cut et on met des acteurs français, quoi. On met Gérard Depardieu, tu vois.
Ouais, ouais, mais je pense que tu...
C'est le marché américain.
Je sais pas. Ouais, c'est le marché américain, parce que si tu regardes bien, Power Rangers s'est forcé tout le temps, à toutes les saisons. Alors, je vous le dis, moi, je ne suis pas de la génération Power Rangers. Hein, moi, c'est Bioman et Jiraiya et Winspector.
Voilà. Et XOR aussi. Et XOR.
XOR, non, moi, ce n'est pas ma génération, c'est la sienne.
C'est plus la mienne. Voilà.
Mais, mais en fait, non, parce que je pense qu'il s'est vertué à justement à bah, avoir un acteur noir, un acteur blanc, un acteur asiatique, une actrice asiatique, voilà.
Très à l'américaine.
Après,
hein.
Oui, c'est à l'américaine, c'est-à-dire qu'il fallait américaniser le truc, quoi.
Oui, mais voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, en Europe, et en tout cas en France, et dans d'autres pays d'Europe, où par exemple, tu as eu des Bioman et des Sankukai et trucs, y a, personne n'a éprouvé le besoin de d'européaniser, entre guillemets.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que c'est moi ça m'a toujours un peu gêné parce que tu sentais le côté génial des scènes d'action où les gars sont en costume où clairement tu reconnais cette patte de cascadeur japonais et il faut bien comprendre que les cascadeurs japonais de la NHK enfin des trucs ils sont des tarés. Avant, il n'y avait pas d'effets spéciaux à l'époque.
Non, c'était des c'était même pas défilé les mecs. Hein.
Voilà, les mecs se jetaient dans le vide hein, parfois. Ouais. Et puis tu avais ces petits minés américains qui jouaient mal, et tu te disais moi c'est ça qui m'a arrêté sur Power Rangers. Ah,
oui,
j'étais client. Hein.
Mais je sais pas si tu te rappelles du premier épisode de Bioman. C'était hyper violent en fait. C'était noir, mais alors un truc. J'étais là, je faisais quand même. Enfin, tu vois, ça rigole pas.
Oui.
Et Bioman, c'est vrai que même derrière le truc un peu Sentai forcément très forcé, mais il y avait de la noirceur quoi. Tu vois, dans Sankuka, il y avait de la noirceur. Enfin, c'est quand même.
Ah non, mais il y a toujours eu dans les Sentai japonais un côté comment dire. Je suis pas un expert, hein, mais il y a ceux plutôt pour les enfants, là, les Ultraman et compagnie, qui sont quand même plutôt typés gamins, tout ça. Sinon, c'est quand même des scénars aboutis.
Ah oui, tout à fait.
Et c'est ça aussi que malheureusement je trouvais que les Power Rangers dévitalisaient ça. Tu sentais que c'était dévitalisé. Après, très content que ça ait eu du succès, très content que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ça soit leur petite Madeleine de Proust, leur doudou d'époque. Hein. Mais c'est vrai que ça fait. C'était bizarre pour des gens qui ont découvert ces dessins animés, ces films plutôt, pardon, désolé, les dessins animés, qui ont, dans les années 80, qui ne comprenaient pas. Enfin, Sankukai, tu parles à des vieux glands comme moi, c'est extraordinaire. C'était un Star Wars japonais dans ma tête.
Bon, en fait, ça n'était pas.
Quand tu regardes, ça ne l'était pas. Hein, mais bon.
Non. Mais tu sais que Sankukai s'est tiré d'un autre film, en fait.
Oui.
Avec les mêmes acteurs et tout, tu connais l'histoire. Hein,
qui apparemment est encore disponible sur la plateforme France TV actuellement, je crois.
C'est ça.
Enfin, au moment où on enregistre, c'est ça.
C'est ça. Ouais. J'ai pas osé. Il me semble que je l'avais vu, ce truc.
Oui.
Il y a très longtemps. Hein. Mais ça devait sortir. Je pense que ça a dû sortir en DVD pirate, tu vois. En cassette pirate. Enfin. Je suis pas sûr, mais voilà. Mais
Là, c'est dans une offre légale du service public et c'est gratuit pour tout le monde. Et bon, c'est une curiosité à faire, hein, vous voilà. Mais bon, le Senta, enfin voilà. En tout cas, il y a toujours eu les bons coups. Si on prend, on revient toujours à Saiban. Il était derrière la série des X-Men de 92, hein, en dessin.
Oui.
Et ouais, là, quand même, on peut se dire, il est fort, le mec. Parce que il va voir Marvel. Ouais. Et il arrive à produire des animés, que ce soit t'as la série Spider-Man aussi. Qui était.
T'es sûr que c'était Saiban, X-Men?
Oui.
Je suis pas sûr. Hein.
Oui, X-Men, si.
80. Okay.
Il a produit X-Men et il avait produit Spider-Man aussi.
Ok, d'accord.
Okay. De l'époque. Et X-Men, ce qui est fort, c'est que finalement, c'est peut-être le show en dessin animé. Le plus respectueux des X-Men, quoi.
Ah oui, bah complètement. En tout cas, à son époque.
Oui, à son époque, mais tout y était.
Oui.
Là, moi, je me rappelle, ça passait. Alors, moi, je l'ai regardé sur la 2, dans les années. Quand c'était diffusé le samedi matin. Il y avait le dessin animé aussi de Retour vers le futur avant et Beetlejuice. aussi. D'accord. L'animation de Beetlejuice. Ce que je trouvais extraordinaire, c'est que j'avais l'impression que mes pages de BD, elles dansaient, tu vois. Je trouvais que c'était extraordinaire, quoi.
Ouais, c'est juste une production en fait. Ah, production. C'est pas une réalisation, Sabin. Bon. C'est juste, voilà.
Bon, enfin, il avait du flair, quoi. Il avait réussi à. Il y avait Avi Arad. Normalement, il y avait Avi Arad qui était le producteur. Mmh. Tu avais Stan Lee qui était producteur exécutif parce qu'il était toujours producteur exécutif, Stan Lee.
Ouais.
Mais ce qui était extraordinaire, c'était que c'est des X-Men qui étaient colorés. En fait, tout ce que le cinéma a pas fait, tu vois, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Exactement, parce que bon, tu peux en animé, forcément, tu peux te le permettre. Et si vous êtes curieux, vous pouvez les trouver sur Disney+. Alors, je crois que c'est les trois premières saisons sur cinq.
Moi, je crois qu'il y a, ouais, il y a presque tout.
Les deux dernières saisons n'ont pas été traduites, en fait.
D'accord.
Ce qui n'empêcherait pas Disney de nous les foutre en VO sous-titré. Moi, j'aimerais bien, parce que du coup, j'ai jamais vu la fin. Mais,
bien sûr.
Et la série X-Men 92, vous devez sans doute le savoir, mais je le répète, va avoir une suite.
Ouais.
Dans l'année qui arrive là, en 2023 ou 2024, avec le même style que l'époque. Bon, j'espère une animation un peu mieux.
Ouais.
Mais voilà, ça s'appelait X-Men 97, donc 5 ans après.
Alors, il y a eu un truc à l'époque d'un crossover pas si dégueulasse que ça, qui s'appelait Secret Wars, mais pas le Secret Wars des années celui des années 2000. Hein. Tu avais eu un spin-off où c'était dans le monde de Battle World qui servait de truc à ce X-Men. Tu avais un pays où c'était X-Men 92 qui était
D'accord.
Qui vivait là tranquille et ça reprenait un peu une suite. Et en fait, alors que c'était censé être, tu vois, la mini-série de trois épisodes, genre Secret Wars, X-Men, eh ben elle a eu un énorme succès. Et donc, du coup, Maurice, on se dit, mais pourquoi on ne capitaliserait pas là-dessus? Allez, voilà, bon. Non, mais enfin, il y a des collègues. Mais même la série Spider-Man de la même époque, hein, elle est assez extraordinaire en termes de dessin animé parce que.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup d'épisodes de Spider-Man en dessin animé.
On ne parle pas de la vieille série des années 70.
Non, on parle bien de celle des années 90 avec à peine plus de budget dans l'animation. Hein, parce qu'il faut être clair, ce n'est pas l'animation du siècle. Hein.
Non.
Voilà, il y a Miyazaki et puis dans les poubelles du studio Ghibli, on trouve la série Spider-Man.
Dans
voilà.
Les chiottes.
Dans les chiottes, vraiment. Qui c'est qui a fait ça?
Qui c'est qui a pas essuyé?
C'est ça. Mais elle avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que là aussi, elle était très respectueuse du matériau, ouais. À part pour Spider-Man, qui était un personnage bodybuildé. L'impression que c'était un surfeur californien, Peter Parker.
Vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Bon, mais par contre, tu avais Venom.
Il était un peu dessiné comme ça aussi à l'époque. Hein.
Ouais, c'est vrai.
La deuxième période Romita Junior, là, vers 97.
Ouais, puis c'est l'époque.
Il les faisait baraquer. Hein.
Les mecs, ils étaient badass. Et c'était des mecs, des vrais.
Ouais.
C'était avant MeToo.
C'était avant MeToo.
Excusez-nous. C'est des blagues à la con.
C'était la bonne époque.
Cet épisode n'est pas préparé, on tient à le dire. Et donc, non, mais c'est rigolo, il y avait Venom, tu avais la période où il se retrouvait avec six bras parce que les mutations sont de ce pouvoir, enfin bon. Tu avais Daredevil, je crois, qui apparaissait. Il y a un procès à un moment donné de Peter Parker, et c'est Daredevil qui apparaît. Enfin, on a l'impression que c'est le MCU qui a inventé tout ça, mais non, c'est une série. C'est une série coproduite par Saiban.
C'est ça.
Avec Avi Arad en producteur et Stan Lee en producteur exécutif. Toujours c'est la même ça. Chose. Ça m'avait marqué dans les génériques.
On va parler d'une autre série là de Saban là. Qui nous a marqué, c'est la série Super Mario Bros.
effectivement.
C'était quoi le principe?
Alors, le principe, c'était qu'il y avait deux Italiens qui faisaient un rap.
Alors, attention, c'était des Italiens. C'était
deux frères.
Dégueulasse. Hein, dégueulasse. Ils étaient dégueulasses. Mais vraiment, oui. Hein, c'est. Je sais pas, alors le Mario, c'était un mix entre John Goodman et Carlos.
Voilà.
Mais dégueulasse, quoi. Vraiment. Mais en fait, moi, ce qui me marquait, c'était que les mecs, ils faisaient vraiment sale, en fait. Je sais pas si tu t'en rappelles. Tu sais, il y a eu cette période dans les années 90 où on s'amusait à faire du live.
Ouais.
Des trucs live. Voilà. Et donc il y avait ça, il y avait Tortue Ninja, le film qui était qui est un, moi j'ai toujours aimé ce film, qui est un
le
très
premier,
bon film, le premier, dégueulasse. Si tu regardes bien, c'est le New York des années 90, hein. c'est le New York crade, hein. C'est pas New York maintenant. Hein.
Non, voilà.
Et t'avais donc Super Mario Bros, où il vivait dans une espèce d'appart de, enfin, un grand appart de merde. Enfin, c'était hallucinant, quoi.
Alors, il faut savoir une chose pour les jeunes auditeurs. À cette époque-là, Nintendo, ils étaient pas très regardants sur les contrats qu'ils signaient.
Non.
Hein, pour la production. Et donc, ils ont fait un petit peu, ils en ont eu pour l'argent ou pas, en fait, hein, plutôt pas.
Alors, c'était pas le Nintendo qu'on connaît maintenant, hein.
Oui, mais puis c'était des productions américaines avec l'animation, on va dire, pour en donner un ordre d'idée, la fin d'Hanna-Barbera, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit Hanna-Barbera qui est promis.
Je ne suis pas sûr, non.
La fin de cette animation un peu, comment dire,
un peu élastique, là.
Un peu, voilà, alors sur la fin, c'était vraiment crasseux. Et bon, ils ont produit Mario là-dedans en se disant, bon, on ne va pas faire beaucoup d'efforts. Enfin, je crois que les producteurs eux-mêmes n'y croyaient pas.
C'était sans doute pas du 24 images par seconde.
Non.
Puis c'était plutôt du 8 images par seconde.
Ouais, sur Internet, c'est un nombre. Il y a un nombre de mèmes et de gifs produits à partir de cette série.
Ah oui, avec le nom.
Ouais, qui sont absolument incroyables. Hein. Et donc, bon, Mario. Bah, et puis, il ne faut pas oublier, il y avait peut-être eu 2-3 jeux. À l'époque où ce truc a été produit.
Ah ouais, alors en fait, il faut expliquer le truc. C'est que c'était présenté par donc, ces deux Italiens dégueulasses qui étaient Mario et Luigi, donc en live. Ils faisaient des gags pas drôles. Et même à l'époque, on était jeunes. Hein, moi, je devais avoir 7-8 ans, hein, peut-être.
Non, c'était gênant.
Voilà, et même là, je me disais, putain, mais c'est pas drôle, quoi.
C'est gênant, quoi.
C'était le début, le commencement de la gênance, quoi.
Voilà.
Et donc, ils présentaient des dessins animés. Donc, il y avait un dessin animé Super Mario, un dessin animé Zelda. Et je crois qu'il y avait un truc, c'est Captain N, un truc comme ça.
Captain N, voilà. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup de Captain N, parce que là aussi, c'était une sorte de grosse gênance, puisque c'est un mec qui arrivait à rentrer dans les jeux vidéo en utilisant le N-Zapper là, pour jouer. Enfin, d'ailleurs, c'était son arme, hein, après, dans le truc. Il rencontrait les mecs de Double Dragon, il rencontrait les Megaman aussi. Megaman, alors...
Le Megaman, putain.
Le Megaman, il était... Comment vous dire
Qu'est-ce
ça
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, excusez-moi, chers auditeurs, je vais être vulgaire. Il y a des putes mexicaines à 1$ qui sont quand même plus attrayantes que le Megaman de Captain N. Je crois que ça, il faut quand même le dire.
Je sais pas ce qu'il leur a pris. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Je sais pas. Je sais pas, la drogue, je sais pas, la dépression, je sais rien.
N'oublions pas, à la fin des années 80, au début des années 90, à la fois c'est le début du règne, on va dire, de Nintendo, enfin c'était le grand règne de Nintendo, puisqu'aux États-Unis, une console de jeu, enfin, c'est un peu comme l'histoire du frigidaire en France, quoi. Une console de jeu, c'était une Nintendo, même Sega, ils fabriquaient Nintendo, tu vois. Donc bon, c'était. Bon, voilà. Mais en même temps, les jeux 8 bits et un peu 16 bits aussi, finalement, techniquement, ils étaient très pauvres. Je veux dire, globalement, tu dois adapter quoi comme histoire? Un plombier italien moustachu qui saute sur des champignons. Il n'y a pas de scénar dans Mario. Hein, le dernier film l'a très bien démontré, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'histoire. Ouais. Voilà.
J'ai pas vu encore.
Un gros succès, mais qui adapte bien le lore de Mario. Le problème, c'est que dans Mario, il n'y a pas vraiment de scénario.
Non, il
n'y
a rien.
Voilà. Oui. Donc il faut galérer avec ça, tu vois. Alors bon, si t'es Illumination, qui a 35 ans de production de jeux, tu peux piocher dans plein de trucs, les adapter et tout. Mais à l'époque, il y avait pas 35 ans de production, donc c'était un peu pauvre. Et donc Captain N, par exemple, l'idée c'était de dire bon, vous aimez les jeux Nintendo, et dans les jeux Nintendo, donc les persos de Double Dragon ou les persos de Mega Man. C'est Capcom, Tecmo, enfin, c'était tout était considéré comme du Nintendo,
tu vois.
D'ailleurs, je me demande même comment ils ont négocié les droits.
Je pense que ils s'en foutaient complètement.
Complètement.
Ça vendait des jeux.
Et alors, les covers de par exemple de Megaman, hein, les boîtes de Megaman étaient. Les versions américaines étaient vraiment dégueulasses. C'est-à-dire, ils avaient pris des illustrateurs qui, globalement, n'avait pas vu le jeu, pas même les artworks, un peu tout ça qui était à l'époque. Donc il faisait des choses assez voilà, j'en reviens ma pute mexicaine à $1 pour faire une idée. Mais alors, c'est vrai que ça tranche avec les boîtes japonaises, hein, qui étaient quand même waouh, c'était chouette. Voilà.
C'était il y a un savoir-faire qui longtemps a été il y avait un savoir-faire japonais et même français.
Oui.
Qui pendant très longtemps a mis du temps à être égalé aux États-Unis en fait.
Ben, de toute façon, moi, je le dis souvent aux États-Unis. Vous pouvez trouver... Alors, ça, aujourd'hui, on n'en trouve plus trop parce que les Toys R Us sont fermés et tout. Vous pouviez trouver des jouets Dragon Ball où, en fait, les mecs, ils prenaient des petites figurines à la con, probablement produites à Hong Kong ou en Chine, à pas trop cher. Et puis, ils mettaient une mitraillette dans les mains de Son Goku. De Gohan. Enfin, bon... C'était très spécial, on va dire.
Ouais. Mais bon.
C'était pas cher. Pourquoi il a une mitraillette alors que.
Alors que putain, il fait péter la planète.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que je vois d'autre comme. Il y avait bien sûr celui qu'on a appelé Musclor chez nous, qui était Iman. Iman. Alors là, si t'as pas dans le titre le mal alpha puissance. Puissance 3000, voilà.
C'était les années 80 là.
On va peut-être pas revenir sur Iman. Il y a plein de documentaires intéressants sur Iman en plus.
Sur Netflix.
Vous pouvez le trouver sur Netflix. Je sais pas s'il y a encore le documentaire justement sur Iman.
C'est Netflix qui les a produits.
C'est The Toys That Made Us. Mais ce dont je te parle, je sais pas si tu l'as vu, c'est le Royaume du crâne de cristal ou un truc comme ça.
Oui.
C'est un gros truc d'une heure trente. Enfin bon. Voilà.
Je tiens à dire une chose à propos de Musclor qui m'a toujours à l'époque un peu gêné. Je me dis mais en fait. Le mec, quand il se transforme, en fait, il n'y a pas de transformation. C'est-à-dire que même quand il est soi-disant chétif prince d'Eternia, il brandit son glaive et en fait, il est déjà hyper musclé et il continue à être musclé, sauf qu'il est bronzé et qu'il a un slip en fourrure.
Surtout que d'origine, dans l'émission, tu l'apprends, les créateurs, ils ne voulaient pas du prince Adam, en fait.
Oui, bien sûr.
Alors, je ne sais plus exactement pourquoi ils ont mis le prince Adam. Voilà.
D'ailleurs, puisque Musclor aussi, il y a 2 ans, je crois, alors je l'ai moi, une édition des BD qu'il y avait dans les jouets, puisque, il faut savoir que les boîtes de jouets, voilà. Donc, ils avaient pris des dessinateurs qui s'étaient fortement inspirés de Conan le Barbare, de Bushima.
Mais l'univers de base de Iman était hyper noir. Hein. Enfin,
C'est un fourre-tout.
C'était génial, quoi.
C'est un fourre-tout. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, l'ennemi de Musclor, c'est-à-dire Skeletor, indéniablement, dans les BD qui étaient vendus, le personnage était vraiment glauquissime, crâne, enfin bon, voilà. Voilà. Et puis, ce qui a pas aidé, c'est le doublage français.
Oh, putain.
Je vais te tuer, Musclor. Je vais me venger.
Alors qu'il est pas du tout comme ça, il me semble, aux États-Unis. Enfin,
Mec, il fait peur, quoi. C'est un crâne. Le mec, c'est un crâne, le gars.
Ah, ça vaut les doublages de Ken le Survivor. Hein.
Ouais. Je vais te. Je me souvenais, je disais, mais putain, mais le gars, il est... Comment, quoi? Comment on peut faire ça, quoi? C'était quelque chose.
Il y avait Masque aussi.
Ouais, Masque aussi. Masque, c'est le concept. Je te fais un jouet, puis bon, tu me fais un dessin animé.
Ouais, sauf que là, Masque, les jouets ont vraiment marché, quoi.
Les jouets ont vraiment capté.
Tout comme Musclor, hein, tout comme Iman.
Comme Musclor, ouais. Alors, il faut savoir que le dessin animé, là, on avait deux choses dans ce dessin animé Masque. Alors, il y a des trucs formidables.
Déjà, Masque.
Masque, alors en gros, c'est une équipe de mecs quand leur montre sonne, ils abandonnent tout et puis ils se réunissent pour dire OK, il y a le gars qui fait un truc là, Venom qui fait un truc dans le monde.
Mais les mecs, ils abandonnent leur vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un mec, il est en train de souder un truc, je sais pas quoi, il fait ça sonne, ouais, ciao. Ouais. Les mecs sont
là, mais quoi. J'ai trouvé ça. Bon, j'ai toujours. Le concept est idiot. De base, le concept est idiot. Mais en gros, comment ils font pour lutter contre les méchants qui ont des machines qui se transforment en d'autres machines? Eux-mêmes, ils ont des voitures, des trucs qui se transforment en autre chose. Le seul côté un peu gênant, pas gênant de cette série, mais compréhensible en fait, c'est que il fallait pas que les personnages, et c'est le même problème pour G.I. Joe d'ailleurs, ne se tirent dessus avec des armes à balles réelles.
C'est ça.
Donc c'était des piou-piou. Voilà, ah ouais. Ils se tiraient au laser. Donc piou-piou,
c'est la naissance des piou-piou. Hein.
C'est les premiers piou-piou de l'histoire. En fait. Voilà.
Mais c'était bien, parce que moi j'aimais bien. J'aimais plus le concept que le dessin animé. Et j'aimais beaucoup les jouets, parce que j'avais beaucoup de jouets masques. Vraiment.
Les jouets, ils étaient stylés, ils étaient soignés.
Pour la petite histoire, je ne sais pas si j'ai déjà raconté sur le podcast, mais je suis parti un moment de chez moi. Je devais avoir 16 ans ou 16-17 ans la première fois que je suis parti. Et en fait, quand je suis revenu, moi j'habitais chez ma grand-mère et j'avais tout rangé dans des boîtes, hein, je veux dire, voilà. J'avais même des boîtes. Alors j'avais un truc de fou, hein. J'avais la base, j'avais Rhino avec le camion, tous les trucs, quoi, tu vois.
Ouais, les trucs, voilà.
Et donc j'avais dans cette boîte, j'avais des Chevaliers du Zodiac, j'avais des G.I. Joe, enfin voilà.
D'accord.
Des Iman, enfin bon,
voilà. Tout ce qui fait que t'avais pas de vie sociale, en fait.
Tout ce qui fait que j'aurais pu être riche aujourd'hui, en fait.
Aussi.
Et en fait, je suis allé voir ma grand-mère, je fais, mais elle est où la boîte? Elle fait, ah ben, je l'ai passée au voisin, là, en haut, parce qu'on habitait dans des HLM. Oui. Et le voisin en haut, c'était un espèce de petit connard que je supportais pas, quoi.
Voilà.
Et ce mec, je vais le voir, je fais, ouais, excuse-moi, ma grand-mère, voilà, elle t'a passé des trucs, elle m'a dit, ah, mais non, il me dit, ah, mais non, tu vois, je m'en suis débarrassé, je les ai donnés, machin.
C'est de la merde.
Okay. Et en fait, j'ai appris il y a peut-être 10 ans que cet enculé les avait revendus, en fait, mais il y a 10 ans, en fait. Il les avait gardés, il a tout revendu il y a 10 ans, et il s'est fait des couilles en or, ce bâtard.
Ah, j'imagine.
J'espère que tu crèveras la gueule ouverte.
Eh ben, écoute, comme dans Mask, à la fin, il y avait ce truc. Alors, il y avait les personnages mascottes. Il y avait un robot insupportable avec le gamin qui...
Ouais.
Alors, le gamin du chef qui trouvait toujours le moyen, on lui disait, non, ne va pas là, c'est un théâtre d'opération de guerre, et tu pourrais mourir. Ok, j'y vais! Ok, j'y vais. Ouais.
T'es quand même face à un père orphelin qui est désemparé. Enfin, ouais. Le père d'un orphelin, parce que apparemment la mère est morte, je crois, un truc comme ça.
En tout cas, la mère, on l'a jamais vue.
C'est ouais, c'est le pire père du monde. Tu vois,
ouais. Et le gamin, chaque fois, tu ne nous suis pas. Ok. Il arrivait même avant, souvent. C'était encore plus dingue. Et surtout, la fin, c'était, ils avaient gardé, même en français, ces horribles trucs américains où vous aviez le message d'intérêt, de service, tu sais. Alors,
oui,
le môme, il va se perdre avec son robot, il va se perdre sur un terrain où, globalement, il y a des mines, des lasers qui se tirent de partout, de tous les côtés. Et puis, 2 minutes après, c'est, mais non, il faut toujours tenir ton chien en laisse, parce que si jamais il mord quelqu'un d'autre, fais attention. Et puis,
regarder,
tu as des responsabilités.
Ouais. Faut regarder à droite et à gauche.
Traverser, voilà. Et alors ça, il y en avait partout de ces trucs-là. Hein.
Il y en avait dans l'inspecteur Gadget, je crois.
Oui, il y en avait dans l'inspecteur Gadget. Ouais. Il y en avait dans. Alors, on comprenait pas ce que c'était, mais on sentait bien que c'était naze. Hein. Et même si
ces conseils de merde, t'étais là, mais même quand t'étais gamin, tu fais bah oui, forcément, tu regardes avant de traverser la rue, espèce de con. Ouais.
D'ailleurs, la seule fois où j'ai pas regardé avant de traverser la rue, j'étais renversé par une voiture.
Ah, mais c'est pas mal.
Tu vois, c'est pour ça que bon. Après, je l'ai refait à nouveau, tu vois.
Putain, j'ai oublié de regarder Mask ce matin.
Merde. C'était un peu ça l'idée. Non, c'était extraordinaire parce que bon, c'était plein de condescendance, hein.
Ouais.
Parce que c'était hyper condescendant. Il y avait Sonic aussi, le premier dessin animé de Sonic,
ouais, qui était horrible.
Voilà. Sonic va vous parler ou non, Sonic va vous causer. Non, Sonic va vous parler. Tu parles bien, hein. Tu dis pas des conneries. Voilà. Bon. C'était extraordinaire. Et ben, ouais. Bon, est-ce que ça a fait de nous des gens plus polis? Genre, tu dis bonjour à la dame, je sais pas.
Moi, je trouvais ça quand même insupportable.
Ouais. Je trouvais ces trucs-là à la fin insupportables.
Mais de toute façon, je pense qu'on est d'une génération. Dès qu'on t'expliquait quoi faire, en fait, tu faisais pas.
Voilà.
Je pense.
Voilà.
Contrairement, bizarrement, à cette génération, là, je vois mes enfants, ils ont beau être insupportables et chiants. En gros, ils font ce qu'on leur dit, en fait.
Oui, oui, oui.
Tu vois,
ouais.
C'est le dieu internet et enfin tu vois
Ouais.
Non, mais assez, moi je trouve que c'est une génération très docile en fait comparé à ce qu'on était.
Je sais pas, mais bon, Mais moi, je sais qu'une chose, c'est qu'effectivement, je détestais ses morales à la fin. Et ça ne m'a pas trop encouragé à faire ce qui était dit. Non. Surtout que c'était souvent des morales très américaines, en fait, tu vois.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, genre, tu sais, si tu trouves une arme à feu dans le truc de ton père, surtout, tu n'y touches pas. Hein, c'est pour les grands.
Tu ne vas pas à l'école avec.
C'était un peu des trucs comme ça. Donc,
tu ne vas pas au lycée de Columbine.
Voilà, non, mais c'était très particulier, on va dire, parce que globalement c'était très américain. Mais ouais. Ça avait un côté, ça faisait partie du show. Mais c'est
puis
vrai
t'avais
que
l'inévitable épisode de la cuisine où il disait faut pas s'approcher des casseroles chaudes.
C'est ça.
Tu les avais dans tous les trucs.
Tu avais aussi une série, puisqu'on parlait de le générique était de Saiban, c'était les Aristochats.
Ouais.
Moi, les Aristochats m'ont toujours impressionné.
Non,
parce
les Entrechats,
que
les
Aristochats, ouais. Excusez-moi, Disney ouais. Plus.
D'autres choses.
Fouettez-moi si vous voulez. Je me laisserai faire docilement. Et ouais, les Entrechats, ça avait un côté. Alors, j'ai jamais vraiment compris, mais la série était bien. Mais globalement, ouais. Ça commençait toujours avec Isidore le bourgeois qui vivait dans une maison bien et tout. Et puis après, il y avait Riff Raff, le chat qui était dans
T'avais deux épisodes en un, en fait.
T'avais deux épisodes en un. Je me suis toujours demandé si c'était pas là aussi le syndrome Robotech. Tu vois, c'est-à-dire on prend plusieurs trucs, on mélange parce que il y avait
aucune voulu parce qu'en fait c'était alors j'ai regardé un petit peu les origines du truc, ça c'est marrant parce que j'ai regardé il y a pas longtemps, tu vois.
Tu vois.
C'est tiré d'une bande dessinée italienne, je crois.
Ouais.
Et donc les Entrechats et Isidore sont les personnages d'un même auteur. Alors par contre, excusez-moi, j'ai pas pensé à regarder.
Voilà.
Et du coup, le dessin animé englobe tous ces personnages. Mais en fait, oui. Ce sont deux BD différentes.
Il y avait aucune porosité. À part dans le générique où tu voyais les deux ensemble, enfin, les personnages principaux ensemble et tout. La seule porosité qu'il y avait, c'était les minables, les chats minables d'Isidore, c'était les mêmes qui vivaient dans la décharge avec Riff Raff. C'était le seul point commun entre ces deux trucs, mais il n'y avait pas de rencontre entre les deux personnages, il n'y avait pas. Alors que pourtant, ça avait de la gueule. Bon, après, tu me diras, peut-être que j'ai pas vu qu'il y avait des rencontres, hein. Ça passait en début de soirée.
Il y avait quelques interactions entre Isidore et les Entrechats, en fait. Ça des
ouais,
fois,
ouais,
se rencontrer,
ouais.
Mais après. Ouais.
Le générique était top, hein.
Ah, le générique était top. Mais
Isidore, le citadin dans la ville. Ouais, bon, bref, désolé, on ne veut pas gâcher
oui, alors,
votre week-end.
là, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, alors, donc, ça, c'est d'après le comic strip F. Cliff, alors pas du tout italien, le gars, de George Gatley, incorporant également des personnages originaux, Riff Raff et la bande des Entrechats. Voilà.
Ah, bah voilà.
Donc, en fait, les Entrechats, c'était des personnages originaux et Isidore. Isidore et d'autres personnages, c'était le comic strip au départ.
Alors il y avait ça avait un peu la même patte. Alors je vais pas dire de bêtises parce que je connais pas les productions et tout quand même de cette époque-là sur le bout des doigts.
Ouais.
Je trouvais que l'animation ressemblait beaucoup au dessin animé de Nila Malice.
Oui, ça bon, devait c'était être la même. C'était ça, c'était les productions. C'était pas Dick.
Ouais, c'est des trucs.
Je regarde, non, c'est même pas Dick, c'est ICCTV Productions, mais je pense que c'était. Ouais,
ça se ressemble beaucoup. En fait.
Ouais.
Ça se ressemble.
Ah, si, Dick Entertainment, pardon. Oui, c'est ça.
Ouais, bah, ça se ressemble beaucoup. C'était. Bon, il y avait plein de choses comme ça, et c'est étonnant, quoi, en fait. Il y avait une certaine vitalité du truc, je trouve, de ces dessins animés-là, que ce soit des prods françaises ou internationales. Il y avait beaucoup de productions franco-japonaises ou italiano-japonaises,
oui.
J'ai remarqué à cette époque-là.
C'était quand même une belle époque pour l'animation, hein, tout ça.
Bah, il y avait du fric.
Il y avait du fric à dépenser, ouais. C'est ça le truc, c'est qu'il y avait du fric à dépenser.
Si tu te souviens bien, c'était une époque où le mercredi après-midi était littéralement squatté par des dessins animés, des émissions pour la jeunesse, hein, que ce soit Vitamine sur TF1, Récréa 2. Bon, et en fait, il fallait que ces longs tunnels de dessins animés de 14h à 18h, 18h30 hein, même, hein, il fallait les remplir. Donc, il y avait de la production.
5, la 5, c'était top aussi pour ça après.
Ouais, par contre, ta 5, eux, ils sont allés acheter le carton, tu vois. C'est quoi ton carton dessin animé tout pourri? Moi, je m'en fous, en fait, je les prends. Allez, hop là. Je les prends et je les diffuse. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des trucs top. Enfin, y a quand même eu Olivier Tom, hein, Captain Tsubasa, hein, qui a été. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que ce soit un générique Saiban, tu vois, Captain Tsubasa.
Genre Olivier
Tom,
là,
ah ouais, parce que ça y ressemble, hein. Olivier Tom, ils sont toujours en forme. Tom Olivier.
C'était diffusé Club Dorothée, ça.
Olivier Tom, ça a été diffusé Club Dorothée. C'était Club sur Dorothée. La 5, non? Sur la 5 de Berlu.
Non, Olivier Tom, Club Dorothée.
Ah ouais, tu confonds pas avec la série franco-italiano chez
l'école des champions, là.
L'école
des
champions.
C'était. Non,
plus tardif, ça.
Plus tardif, mais.
L'école des champions, c'est parce que moi il me semblait que c'était la 5, hein, qui avait d'ailleurs ça avait été un gros carton pour la 5 parce que le l'après-midi tu rentrais de l'école. Bon, pas moi parce que j'aime pas le foot, mais la plupart des gens rentraient de l'école pour regarder ça, quoi.
C'était... Ah mais Olivier Tom a créé une génération de footballeurs. Hein,
Alors moi,
pour ça qu'on a été champion du monde.
Ouais.
Alors moi, première diffusion 5. Sur la 5 en 88.
Et qui c'est le daron
hein? Non, mais oui.
Et oui, non, mais je m'en rappelle. Fini, ouais. Moi, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce que c'était les dessins animés qui avaient juste avant les séries que personnellement moi j'aimais. En fait, j'aimais pas trop les dessins animés de la 5, mais ce que j'aimais, c'était les séries. Il y avait Happy Days, Chérie, fais-moi peur.
Il y avait Dinosaure aussi.
Ouais,
je
te
rappelle, c'était sur la 5, ça, je crois.
Oui, je crois, ouais aussi.
Ouais.
Ou K2000 surtout. Et K2000 surtout. K2000 qui a beaucoup influencé mon goût pour les voitures de sport. Et pour David Hasselhoff. Mais pas vraiment dans cet ordre.
L'agence Tourisque.
Voilà, mais ça, oui, mais l'agence touriste, c'est sur TF1, fais attention, là, c'était sur TF1.
Oui, mais ça fait quand même partie, à un moment donné, K2000, tout ça a été repris par M6. Hein.
Oui, après, oui, bien
donc,
sûr.
Donc, K2000, je suis pas sûr. Mais
alors, M6, pareil, c'était l'époque où tu avais l'impression que tu avais des séries interminables avec des centaines d'épisodes, et en fait, il y en avait 16 qui tournaient en boucle.
C'est ça, hein, parce
par
que
exemple,
c'était des petits épisodes de merde, là.
Le truc, là, la série avec le mec sur sa moto, là.
Ouais, Knight Rider.
Tonnerre
Mécanique.
Tonnerre Mécanique. Ouais. Tonnerre Mécanique, je crois qu'il y a eu que 16 épisodes, mais tourné en boucle, et en fait, tu les voyais. Et comme il n'y avait pas vraiment de début et pas vraiment de fin.
Manimal, je crois qu'il y a 8 épisodes, un truc comme ça. Enfin,
la 3
en a
fait.
Ça a duré 3 ans, quoi.
Ouais, je me rappelle. Hein,
alors, tu t'en rappelles ces trucs-là, dans quoi ça passait? C'était une émission où tu choisissais, tu votais pour regarder l'épisode que tu voulais.
Ça, c'était sur TF1, une est à vous. La une est à vous.
C'est ça. D'accord.
Ça s'appelait La Une est à vous. C'était juste, c'est quand ils avaient remplacé les programmations de, c'est animé par Bernard Montiel au départ. Le mec qui fait chier maintenant chez Hanouna. Et c'était animé par Montiel. Alors, c'était à l'époque, TF1 avait eu un samedi après-midi, je trouve de très bonne qualité avec Astro le petit robot, Maya l'abeille, Capitaine Flamme, et surtout Temps X avec les frères Bogdanov qui m'ont initié à Doctor Who. Voilà, comme quoi ça, ils ont servi à quelque chose, les Bogdanov, dans leur vie.
Ah, mais ils ont servi à plein de trucs.
ils m'ont initié
bien,
à Doctor Who.
J'en ai bien, là.
Ils m'ont initié à Doctor Who. Et à
eux
et
aussi
la science fiction.
Ils ont initié à Luna, finalement.
Aussi, oui. C'est marrant, on les voit plus trop en ce moment.
C'est marrant, en ce moment. Je crois que c'est...
Pardon,
ça les a un peu perdus.
Bon, mais moi, ils m'ont initié à la science-fiction. Personnellement, je pense que le goût que j'ai pour la science-fiction, quand j'étais petit, il m'est venu parce que cette émission, tu finissais Capitaine Flamme ou je sais plus trop quoi, et tu avais la quatrième dimension avec ces mecs-là. Et,
ouais.
C'était bon. Et alors, comme finalement TF1 a été privatisé en 86, ils se sont dit non, mais ça c'est trop de bonne qualité, puis ça coûte cher à. Voilà, c'est encore trop cher à produire. Donc ils ont fait La Une est à vous. Et là, tu te battais par téléphone. Ça aussi, c'est un truc qui a disparu. Et t'appelais la télé pour dire.
C'est ça.
Service audio tel. Ça vous coûtait une fortune pour dire je vois mon truc là. Voilà. je veux voir mon épisode. Et bon, voilà.
Au téléphone. On pouvait même jouer au téléphone à la télé. Tu t'en rappelles?
Ouais. Il y avait des trucs à la Hugo Délire là. Des trucs
Hugo
comme
Délire.
Ça,
ouais. Ouais, dont le seul intérêt, c'était de voir Karen Cheryl en fait. Mais.
Ne regardez pas Karen Cheryl aujourd'hui, à l'époque. Hein.
Voilà. Non, oui, à l'époque. Regardez
sinon, aujourd'hui, vous aurez très peur.
Les bonnes archives.
Regardez les bonnes archives. Karen Cheryl, 1980. Dans votre navigateur. Ne faites pas la même erreur. Hein. Il y a des gens qui ont perdu leurs yeux. qui ont perdu la vue là-dedans. Oui, c'est, en plus, vous voyez, c'est l'épisode de la mauvaise foi. C'est vraiment l'épisode de la méchanceté et de la mauvaise foi.
Ah, j'ai une anecdote sur Karen Cheryl, dis donc. Je l'ai vue en vrai, Karen Cheryl. Ah. Et en fait, j'ai été très content. Parce que, alors, toi qui es d'Avignon, tu connais ? Oui. C'était à l'inauguration. Alors attends, écoute, c'est énorme. À l'inauguration du géant casino de la Rocade.
Eh ouais, c'est vrai. Oh, des
attends,
quoi, pour
attends, non mais à l'époque,
ça.
Attention, c'était des stars. Donc il y avait Les Musclés et il y avait Karen Cheryl.
Et Karen Cheryl.
Et Karen Cheryl, il y avait une estrade très haute.
Ouais.
Et elle avait une jupe très courte.
Eh oui.
C'était Karen Cheryl.
Donc elle nous a fait une Mallory Natal.
Et donc, exactement. Et moi j'avais 10-11 ans, j'étais là, putain, c'est vachement bien quoi.
Alors, moi, celle que j'ai beaucoup aimée, plus que Karen Cheryl, moi j'étais team Douchka.
Ah oui, je me rappelle.
Tu sais, elle faisait les trucs de Disney, là, les dessins animés de, pour
ouais,
les.
Ouais.
Alors,
ouais.
Je crois que j'étais un peu amoureux de Douchka. Mais bon, là aussi, je cherche pas à savoir. Sur
si,
internet.
Si, elle est encore. Putain, on va se faire défoncer. Par...
N'oubliez pas dans les commentaires de dire.
Ouais, elle est encore bonne, quoi. Voilà.
On est vraiment désolé.
On est vraiment désolé. Bon, à un moment donné, hein, on est des enfants des années 80.
On rappellera que cette émission n'était pas préparée, donc non, on n'a pas mis les time codes, les mots. Alors, tu dis pas des trucs comme ça. Hein, voilà. Non, jamais je dirais un truc comme ça. Non, moi, jamais. J'étais amoureux de Douchka. Ouais,
d'accord.
C'était 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi.
C'est marrant. Parce qu'elle avait déjà un nom d'actrice porno en plus.
Oui, en plus. Oui, c'est vrai. C'est
non, vrai. Mais tant qu'on y est, on y va.
Ça peut-être influencer justement mes goûts. Bon, ben, je sais pas moi. Mais une chose est certaine. Mais d'ailleurs, je crois que Disney s'en est débarrassé quand il y avait eu des photos un peu de charme. Alors,
ah bon, je savais pas.
Ouais, mais des photos de charme, mais tu sais, comme on faisait du charme à l'époque.
Ah
gros,
oui, des trucs érotiques un peu. Ouais.
Même pas un chemisier un peu trop décolleté.
D'accord.
Et là, Disney avait dit non. Ça, ouais, nous on fait les enfants, nous. Nous
alors
on fait les enfants.
Tu vas sur Disney Plus et tu vois le biopic sur Pamela et.
Oui.
Et Tommy Lee, t'as carrément Tommy Lee qui discute avec sa bite, quoi. Je sais pas si tu l'as vu, ce truc.
Ou la série aussi sur les Chippendales.
Oui.
Ça va, là aussi, non, la grande classe. Hein.
Non, mais après, voilà, votre époque.
Disney, nous, c'est les enfants.
Ouais, bon après, tu vois, c'était marrant parce que t'avais des gens des fois dans ces trucs-là qui se faisaient virer pour des trucs comme ça. Et puis le soir, t'avais les Coco Girls, quoi.
Oui, aussi.
À 20h.
Ouais, Colaro, ouais.
21h, je sais plus. Non, même pas 21h. C'était démarré depuis longtemps le film à 21h à l'époque.
C'était avant le 20h. Et ouais. Je m'en souviens, et le samedi, t'avais la playmate, quoi, en fait. C'est-à-dire, t'avais le striptease, quoi. T'avais
c'est
un striptease.
C'est ça, c'est vrai.
Là, je me souviens, pour pas avoir la honte, c'est mes parents qui regardaient. Moi, je me planquais dans un coin de la maison. Pour pas qu'on me regarde, et puis. Ah, c'est comme ça, une fille!
Puis attends, mais n'empêche, tu sais, on était dans une. On était quand même dans une époque hyper sexuelle, quoi. Hyper sexualisée. C'est-à-dire que l'après-midi à 15h, on avait Benny Hill, quoi.
Oui.
Benny Hill aussi, tu vois, c'était pas non plus.
Oui, c'est vrai, Benny Hill. Alors, bon, Benny Hill, c'était. Oui, c'est pas très subtil. C'est l'humour granglais. Voilà. C'était l'humour granglais, quoi. Voilà. Il y a Doctor Who d'un côté, puis il y a Benny Hill de l'autre. Hein, ce qui preuve que les Anglais sont grand polisson. Pour rester là. Non, mais c'est vrai que Colaro, mine de rien, enfin, c'est bien éloigné de Saïban, mais c'est normal. Ouais. Colaro, honnêtement, faisait des émissions. Il y avait des humoristes et c'était drôle. Et les familles regardaient ça, quoi. C'est ouais, ça qui m'a rappelé, c'est que tu regardais ça en famille et que, bon, je ne pense pas que les parents aujourd'hui accepteraient. Enfin, moi, je sais pas, je me sens pas. Voilà, je dois dire un truc de
mal. J'ai raconté ça à mon grand, à mon plus grand. Hein. Je disais, mais parce qu'à un moment donné, on regardait, tu sais, quand t'es pendant les vacances de Noël ou de Pâques.
Ouais, ils te font les best-of là, ils te remettent des trucs.
Des émissions de best-of de machin. Et en fait, ils me disent, ah, mais c'était quoi ça? Je fais, mais ça, mec, c'était les Coco Girls. Il me dit, ah bon?
Ah ouais, ouais.
Il me fait, mais tu regardais pas ça? Je fais, mais si, ça mais passait si. À 19h.
Oui, puis c'était l'époque, il y avait trois chaînes de télé. Moi, j'en reviens toujours à ça. C'est-à-dire que les parents, ils ne disaient pas, non, non, mais toi, tu vas regarder Disney Channel dans ta chambre. Hein. Ouais. C'était de la science-fiction, ça. Donc, ouais. comme c'était de la science-fiction, ben, tout le monde était sur le même canapé. Enfin, moi, j'ai des souvenirs sur France 3, par exemple, les Dents de la Mer, je devais être petit. Hein.
Ouais,
mais j'étais confortablement calé entre mon père et ma mère et tout le monde regardait ça. Il n'y avait pas de reco, genre, attention, le public, c'est des scènes qui pourraient choquer le public. Voilà.
Ouais.
Bon, j'ai des potes, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais spécial dédicace, il y en a, ils n'ont jamais pu mettre un pied dans l'eau à cause des Dents de la Mer. Hein,
Ouais, je sais. Moi, j'ai un copain qui, c'était son cas. Il pouvait pas, on allait même à la piscine. Hein. Je veux dire, il pouvait pas aller à la piscine.
Oui, mais parce que bon, c'était diffusé sans aucune somme de. Sans aucune préparation, tu vois. Aujourd'hui, il y a tellement d'avertissements.
Les restrictions, alors au début, c'était. Alors maintenant, je sais plus ce que c'est, mais au début, tu sais, t'avais la pastille moins 10, moins. Moins 10, ça n'existait pas. T'avais moins de 14, je crois.
Tu avais même plus loin que ça, t'avais ce qu'ils appelaient le carré blanc. C'est-à-dire.
Le carré blanc, oui, c'est vrai.
Le carré blanc, tu avais le carré blanc qui te disait, bon, les parents, il y a le carré blanc. Faites gaffe, hein. Et les parents, ils répondent, ouais, ok, ben ça va être une soirée en famille, hein.
Putain, ouais, le carré blanc.
Il y avait aucune.
Ce serait un bon nom de podcast, ça.
Carré blanc. Le carré blanc, c'est clair.
Mais ouais.
On va garder voilà. Mais le carré blanc était vraiment le truc. Les parents n'en tenaient absolument pas compte, hein. Quand tu vois aujourd'hui le moindre truc, attention, ce téléfilm pourrait avoir des scènes choquantes, éloigner les plus jeunes, et que tu regardes le truc, c'est une histoire, c'est un téléfilm de M6 où le Père Noël tombe amoureux de voilà, et bon, il y a des scènes choquantes, enfin, c'est même un peu extrême à l'inverse, quoi, c'est-à-dire
c'est très extrême, ouais. Ouais.
Voilà, j'ai toujours. Moi, par exemple, on m'a souvent expliqué, ma passion de Doctor Who étant tellement dévorante, on m'a souvent expliqué que, bon, tu montres ça à ta fille, elle a 4-5 ans. Ouais, mais si tu lui expliques qu'il y a un monsieur dedans le truc qui fait l'extraterrestre et que tout ça, c'est pas vrai, tu survis, quoi. Tu vas y survivre. On a lu bien pire, hein, en matière de comics.
Je me rappelle un jour avec ma chère épouse, on est allé chez des amis. Et alors nous, dès l'enfance, hein, les gamins, ça a été Seigneur des Anneaux, Harry Potter, c'est pas non plus, tu vois, extrême, quoi. Mais ça peut un peu faire flipper, hein, les gamins, des fois, enfin voilà. Et à un moment donné, on parle de cinéma, on est allé voir Harry Potter, je sais plus combien. Il nous dit, ouais, nous, on est allé voir Frères des Ours, mais les gamins, ils étaient limite. Comment ça, ils étaient limite.
Enfin, des ours.
Ouais, parce qu'à un moment donné, l'ours, il est en pleine caméra, il fait Ouah! Putain, on s'est regardé avec ma femme. Putain. Alors, soit on est des mauvais parents, tu vois ça. Bon. Mais voilà. Fin...
Alors, un jour, on m'a expliqué que Ant-Man, pour la diffusion du premier Ant-Man où j'avais mené ma fille, on m'a dit, tu sais, elle va te le faire payer un jour, elle va avoir peur, elle va avoir Ant-Man, quoi. Soyons réalistes, quoi. Je vous dis pas le dernier Batman là de Reed là. Bon, ok, là d'accord, tu vois. Oh papa, je vais aller au Batman aussi. Non, tu iras pas le voir celui-là parce que quand même, faut pas déconner. Mais là, Ant-Man, quoi. Le mec il rétrécit, quoi.
Et oui, mais écoute, chaque époque a ses moralisateurs.
Disons que pour revenir, les dessins animés n'étaient pas pasteurisés.
Non.
Rien n'était pasteurisé et la télévision, je crois, se foutait littéralement de savoir qu'il y avait des enfants devant le poste. Sinon, jamais Colaro se serait passé.
Ah, oui.
Voilà. Bon, ou alors la grande spécificité, je crois que ça, M6 ne le fait plus maintenant, les téléfilms du dimanche soir. Bon.
Je crois pas.
À minuit, je crois qu'ils ont abandonné le truc. Bon, voilà. De toute façon, c'était nul, tu voyais rien. Ouais. Et
Allez.
Encore une fois, désolé, mais ce soir, un épisode où on se lâche. Bah, pour être le titre de l'épisode.
Comme on me disait à l'époque, hein, si tu veux te branler, prends Canal.
C'est vrai. D'ailleurs, c'était tout le but, moi, dans le petit village où j'habitais, c'était de trouver des potes qui avaient Canal à la maison où les parents se barraient le samedi soir.
Exactement.
Une fois d'un, au moins une fois.
Aller manger avec des amis, oui.
On va chez les copains, tu vois. Bon. Moi, j'ai une très mauvaise anecdote là-dessus, c'est que on a regardé le film et on a littéralement pillé la réserve de pinard du père qui était pas là, et que le lendemain matin, ils nous ont trouvé quasiment tous au bord du coma éthylique avec Canal qui continue à tourner.
Bourré avec la bite à l'air et un morceau de sopalin au bout, quoi.
Ouais, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. C'est pathétique. Mais ça a été, c'est très formateur. Aujourd'hui, bon, il faut pas montrer ça à des enfants. Soyons clairs, la loi est très claire là-dessus. Ah, et d'ailleurs, on était tous majeurs au moment où on a fait ça, avec
fait.
Moins 5 ou 10 ans de différence. Bon, mais mais bon, il ne faut pas le faire. Mais honnêtement, c'est vrai que bon, voilà. Mais M6, c'était la version plus cheap pour les pauvres qui avaient
c'est
pas Canal.
C'était le pendant des pauvres.
Les pauvres qui n'avaient pas Canal, ben ils avaient M6. Ouais, et là, c'était tous les dimanches soirs, après zone interdite, hein, où tu avais des flics qui t'expliquaient que c'est dramatique la vie parce que leur action est compliquée. Et ben, tu avais le film où tu voyais rien et que c'était des versions. Alors là aussi, il y a une histoire à propos de ces productions là. C'était les versions cheapos, c'est-à-dire qu'en fait, les producteurs ils faisaient une version hard pour Canal ou pour les circuits de VHS de l'époque. Hein. Et il y avait la version soft pour la télé, qui a fait les grandes heures de gloire de M6 et de TMC bien des années plus tard.
Oui, TMC aussi.
J'ai d'ailleurs, là aussi pour TMC, j'ai une anecdote. Je me suis, alors attention, elle part de très très loin. Je me suis pété le poignet en 2012 et aucun rapport, vous allez comprendre pourquoi. Et je me suis retrouvé à l'hôpital dans une chambre en attendant qu'on me mette des broches. Je me suis retrouvé dans une chambre à l'hôpital avec, au départ tout seul, mais il y avait deux lits. Et puis ils m'ont emmené un gars, c'était à l'hôpital Nord à Marseille, et ils m'ont emmené un gars, il avait une plaque de métal dans le cerveau, ce qui prouve qu'il était déjà pas très clair. Ouais. Et j'arrivais pas à dormir, j'avais mal aux bras, aux poignets et tout. Et le seul moment où je m'endors, je suis réveillé par la télé. Le mec, il avait mis TMC Charme. J'ai été réveillé par les bruits chelous que vous pouvez imaginer. Et j'étais là en train d'agoniser, j'ai mal aux poignets, ils m'opèrent de main, j'en peux plus.
Je peux même pas me branler.
Ouais, c'est vrai, c'est le mauvais poignet, c'est la mauvaise main. Et mais du coup, j'ai développé, pendant 6 semaines, j'ai développé des talents avec la main gauche. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ambidextre. Cette émission va être dramatique, je sens.
Bon, voilà.
Mon Dieu, j'ai des élèves qui m'écoutent. Zut.
Putain, c'est vrai.
Merde. Tant pis. C'est pas grave. C'est la fin de l'année. Nous reverrons qu'en septembre, c'est bon. Bref, mais c'est vrai que c'est hallucinant parce que c'était, comment dire, voilà. Le mec, il regardait ça, puis il était content, lui, de
regarder ça. Ah oui, c'est de l'art, quoi.
Mais moi, j'étais un peu moins content, tu vois, parce que je voulais dormir, et là...
Mais tu te rappelles que TF1 avait tenté un petit peu de faire ces émissions-là, mais...
Oui.
Un truc un peu plus policier, quoi. Tu sais, c'était Hollywood Night, t'as rappelé
Hollywood Night. Ah putain, ouais. Hollywood Night, c'était formidable, quoi.
Ouais.
Voilà, ouais. Le détective privé, super beau. Le seul moyen qu'il a de résoudre l'enquête, c'est à poil avec la gonzesse qui a tout vu.
Moi, je me rappelle, un des premiers Hollywood Night que j'ai vu, c'était David Duchovny dedans. Je te jure. Et c'était
il
se tapait une meuf, là, je sais plus. Mais
Duchovny, il a fait beaucoup de trucs avant de.
Ouais.
Ouais, bon, ouais. Mais voilà.
Bon,
David Duchovny. On va s'arrêter sur David Duchovny avant son rôle dans X-Files. Voilà. Période grimée en transe dans la série de trucs là.
C'est ça.
C'est ça. Bon, désolé.
Ah, aussi. Dans... Aquarius ?
Non, pas Aquarius. Il avait, il jouait un rôle dans la série de Lynch, là.
Oui.
Lara Palmer, là. Les, voilà.
Ouais, je sais plus.
Oui, c'est bien, on est fatigué ce soir et on n'a rien préparé. De vraiment vous le dire, c'est la honte ce soir. Bon.
Alain Carazé, si tu nous écoutes.
Ne faites pas des podcasts comme ça.
Tu sais de quoi on parle. allez, pour faire plaisir à Landry et à vos petites oreilles, on se fait la bise avec la chanson des mondes engloutis, la danse des pirates.
La danse des pirates.
Allez, à bientôt les amis, à plus. Ciao.
Allez, ciao, ciao les auditeurs.
Pour votre perdition, habitant d'Estrot, pour votre punition, je suis Matimat. Je suis Maxacal, c'est moi qui ramasse. Je vibro, aspire tout ce qui passe. Pour votre terreur, je suis Sescapil. Pour notre bonheur, vous vous tombez pile. J'ai une obsession, la domination. Je n'ai qu'une passion, la possession. Magique. Je cherche la super géophysique. C'est moi, c'est Scapil, un pirate très classe. Je suis toujours prêt à vous faire une crasse.
Hello my babies, je suis Mars Media. Radio vie pirate, pupitou, c'est moi. Je garde mon micro même pour faire toto. Sur un radeau, je ferai de la radio. Fragile.